Bonsoir à chacun, bonsoir aux amis de Balègue, bonsoir aux amis des Sertines, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de plus loin aussi. C'est avec beaucoup de reconnaissance que je suis avec vous, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous allons ouvrir ensemble sa parole. Alors, vous l'avez vu, le titre que je propose pour ce soir, c'est Le disciple de Jésus-Christ entre élévation et parfois bassesse, trop de médiocrité. Nous allons ensemble suivre. Faire un survol de ce chapitre 9 de l'évangile de Luc. Un chapitre qui a une certaine importance pour moi ces derniers temps, vous le savez peut-être. Voilà, j'ai été brutalement arrêté, je me suis retrouvé dans un lit que je n'avais pas choisi, dans des circonstances que je n'avais pas choisies. Et c'est donc le premier chapitre que j'ai lu dans ce lit d'hôpital. Et alors, nous allons parcourir Luc 9, un chapitre qui est riche en épisodes différents, un chapitre, et voilà pourquoi cela m'a encouragé, qui nous montre un Seigneur qui comprend les besoins et qui répond, les besoins de ses disciples, mais aussi les besoins des foules nombreuses qui sont autour de lui. Et ce chapitre va être un encouragement pour nous, il va aussi être une interpellation. Parce que le Seigneur veut nous conduire dans un meilleur discernement de ses besoins, des besoins de ceux qui nous entourent, et il veut nous préparer à y répondre. Mais malheureusement, à l'image des disciples, dans ce chapitre entre élévation et malheureusement quelquefois aussi bassesse, et vous le verrez peut-être, ce chapitre se termine pour finir assez mal. Il y a beaucoup de médiocrité de notre part. Et puis j'aimerais aussi insister sur trois aspects particuliers que nous présente ce chapitre. Notre vie d'adoration ou de contemplation, notre vie de prière et aussi notre vie d'action à son service. Trois aspects à nourrir, à fortifier dans nos vies de disciples. Alors voilà une présentation simple qui a pour souhait de nous permettre de nous regarder dans le miroir de la parole. D'ailleurs, juste avant ces moments, Natacha me disait, mais est-ce que tu as fait le test du miroir? Alors oui, je me suis regardé dans un miroir, pas tellement parce que je me trouve particulièrement beau, mais bien pour corriger ce qui peut-être n'allait pas pour me présenter devant une si auguste assemblée. Alors, je vous invite avec moi devant le miroir de ma salle de bain. Et peut-être qu'avec mon reflet, vous verrez un peu du vôtre. Alors, nous allons commencer la lecture de ce chapitre 9. Et Jésus, ayant assemblé les douze, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. Et il leur dit, ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun deux tuniques, et dans quelque maison que vous entriez, là, demeurez, et de là partez. Et tous ceux qui ne vous recevront pas, en sortant de cette ville-là, secouez même la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Et partant, ils parcouraient tous les villages, évangélisant et guérissant partout. Alors voilà un chapitre qui commence avec un bel enthousiasme, avec un bel élan. C'est une équipe qui est en mouvement pour son maître. C'est une équipe qui découvre un maître qui choisit. Quelque temps avant, ils ont été choisis, mais un maître aussi qui les qualifie et qui les envoie. Il va y avoir un équipement, il va y avoir des instructions, l'un ne va pas sans l'autre, ils auront le droit de le faire. Ça me touche que peu de temps avant, ils aient été choisis. Et déjà, ils sont utiles. Oh, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre, mais le Seigneur veut les amener dans une découverte. Découverte de l'obéissance. Il donne des instructions. Découverte de la dépendance. Ils ne prendront rien pour le chemin. Découverte aussi peut-être de la collaboration, et ce n'est pas toujours quelque chose d'évident dans l'œuvre de Dieu. Découverte aussi d'une stratégie missionnaire. découverte aussi des peines et des misères de chaque demeure, des questionnements de chacun. Ce sera aussi l'expérience du rejet, du mépris, du manque d'intérêt. Mais ce qui me touche, c'est que le Seigneur veut que ses disciples entrent dans chaque maison, écoutent ce qui préoccupe les gens, discernent les besoins, écoutent les questions et puissent y répondre. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression parfois de vivre dans un milieu extrêmement protégé, de par ma famille, de par mes amis, de par mon service même, je suis entouré de croyants. Et le danger, c'est de ne pas voir les vraies questions, c'est de ne plus discerner les vrais besoins, les vrais liens, la dureté de Satan qui règne dans ce monde. Que savons-nous des besoins qui nous entourent? Vous le verrez, cette réunion sera ponctuée de nombreuses questions. Encore une fois, c'est un miroir et ce miroir, nous devons avoir le courage de nous y regarder. Être des héros de l'Évangile, il y a urgence. Sachons y répondre dans la simplicité. Le Seigneur, tout au début de son ministère, dans Marc 1, les versets 14 et 15, nous lisons: Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant: Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez à l'évangile. Nous venons de lire au verset 6 de ce chapitre, et partant, il parcourait tous les villages, évangélisant et guérissant partout. La proclamation de l'évangile, la proclamation que le péché nous sépare de Dieu et qu'il y a nécessité de repentance. La proclamation que Dieu accomplit sa parole, qu'il accomplit les prophéties. La proclamation que, alors pour les disciples, c'était au futur que le substitut allait venir, que la solution de Dieu au péché allait être présentée. La présentation aussi du royaume et de l'autorité et de la seigneurie de Christ, du Messie qui venait. Voilà, dans ce bel élan avec lequel commence ce chapitre, eh bien, osons faire une comparaison. Où en sommes-nous? Sommes-nous des héros de l'Évangile ou alors des héros? C'est peut-être un mot, un jeu de mots un peu facile. Des missionnaires ou des missionnaires impliqués ou médiocres? Voilà, les disciples partent et on va voir que cela a de l'effet. Ils sont 12 maintenant, ils seront 70 un peu plus tard. Et à la fin de l'évangile, chacun d'entre nous est interpellé par l'envoi dans le monde entier. Je lis au verset 7 de ce même chapitre. Et Hérode, le tétrarque, ouït parler de toutes les choses qui étaient faites par lui. Et il était en perplexité parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts. Évidemment, une équipe qui bouge, une équipe qui sillonne une partie du pays, eh bien, c'est quelque chose qui interpelle et qui interpelle même les puissants. Alors, on verra deux Hérodes dans ce chapitre. Ce premier Hérode-là, c'est Hérode Antipas, donc un fils d'Hérode le Grand. Il est tétrarque de Galilée et de Pérée aussi. Il a construit la ville de Tibériade en l'honneur de Tibère. Et puis, ce que j'aimerais dire encore sur lui, on le retrouve à de nombreuses reprises dans les évangiles, c'est que on le retrouve à Jérusalem et pourtant il n'était pas tétrarque de Judée. Son frère Archélaüs avait été placé par l'empereur Auguste après la mort d'Hérode le Grand, son père, en moins 4. Il avait été placé sur la Judée, mais en l'an 6, eh bien, il a été révoqué. Hérode Antipas espérait beaucoup reprendre les responsabilités de son frère, mais la Judée a été transformée en province romaine. Mais Hérode était et restait intendant du temple. Et donc, il avait quelque chose à dire sur les jugements du Sanhédrin. Il avait quelque chose à dire sur tout ce qui concernait le temple. Et c'est pour ça qu'on le retrouve à Jérusalem. Ce que j'aimerais souligner, c'est que Hérode, eh bien, se pose les bonnes questions. Qui est celui-là? Qui est Jésus-Christ? Et on va voir que cette question, eh bien, c'est la question même qui sera posée aux disciples. Au verset 10, je saute quelques versets, les apôtres étant de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et les prenant avec lui, il se retira à l'écart dans un lieu désert d'une ville appelée Bethsaida. Donc on a quitté la Galilée pour regarder un peu un plan du nord du pays d'Israël. Vous voyez, au nord de la mer de Galilée, tout près de l'embouchure du Jourdain, ce fameux Bethsaida Julias. Dans la suite du chapitre, nous remonterons tout le Jourdain pour arriver à Césarée de Philippe. Bethsaida, c'est la maison de pêche. Et c'est un autre Hérode qui règne sur cette partie du pays. C'est Philippe II, tétrarque de cette partie du pays, qui a transformé, qui a amélioré, qui a embelli Bagnas ou Césarée de Philippe, dont nous allons parler tout à l'heure, et qui a construit une ville nouvelle, qui l'a entourée de murs et qui s'est appelée Bethsaida, Bethsaida Julias, en l'honneur de Livie, la femme de l'empereur Auguste, qui est morte en l'an 29. Voilà, nous sommes donc à Bethsaida, et le Seigneur est là avec ses disciples. Il discerne que probablement ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de repos, mais surtout ils ont besoin de prendre du recul. Ils ont besoin d'être à l'écart. Ils ont besoin d'être au contact du modèle parfait et peut-être de rester humbles par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont, au succès qu'ils ont pu rencontrer. Après tout, même Hérode, même un puissant, parle d'eux et se pose des questions. Voilà l'écart. Avec le modèle parfait, notre service apparaît peut-être différemment. Et on va voir que dans la suite du chapitre, ces moments d'intimité, ces moments partagés avec le Seigneur, eh bien, c'est cela qui donne l'autorité dans le service. Nous sommes à Bethsaida et nous allons maintenant lire la suite de ce chapitre. Et les foules, l'ayant su, le suivirent. Verset 11. Et les ayant reçus, il leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Et le jour commença à baisser. Et les 12, s'approchant, lui dirent, renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes d'alentour et s'y logent et trouvent des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais il leur dit, vous, donnez-leur à manger. Et ils dirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple, car ils étaient environ 5 000 hommes. Si proche du Seigneur et si loin de son cœur. C'est la première fois que j'ai envie d'utiliser ce mot médiocre. Voilà des disciples qui sont arrêtés par un obstacle, c'est vrai, qui peut sembler important. Mais ils n'ont pas compris véritablement ce qui est au cœur du cœur de notre Seigneur. Jésus ne peut voir la souffrance morale sans enseigner. Il ne peut voir la souffrance physique sans y répondre. Il ne peut voir les besoins de ses corps sans y répondre. L'amour du cœur de notre Seigneur n'a pas de limite. Le nôtre, il faut le dire malheureusement, bien souvent. Il y a quelque chose que nous avons vécu particulièrement lorsque nous étions dans la région sahélienne, c'est ce que nous appelions le service de la porte, où l'on peut être lassé parfois des besoins incessants, immenses, un puits sans fond des gens qui nous entourent, par la misère morale, par la pauvreté, par les besoins, et parfois on est fatigué. Mais le Seigneur veut répondre à ces besoins. Et j'ai envie de dire, ici, quand la prière ne suffit pas, eh bien, le Seigneur veut nous enseigner sur le partage, sur la compassion, sur ce que nous pouvons faire pour ceux qui nous entourent. Le Seigneur ne veut pas simplement répondre sans impliquer ses disciples, parce qu'il a de la joie à bénir le peu que nous lui apportons. Son désir est de nous associer aussi à sa gloire. Alors les disciples se trouvent vite démunis. Ils vont devoir encore une fois réapprendre l'apprentissage de la dépendance et combien il est important de se tourner vers celui qui a la réponse à tout. Dieu veut nous voir faire le petit geste pour pouvoir faire le grand. C'est ainsi qu'il nous rend participants à son œuvre miraculeuse. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec ce que nous considérons pourtant comme petit, parfois misérable. Ne méprisons pas ce qu'il met devant nous. Apportons-le lui avec amour et alors nous verrons sa gloire. Et peut-être dans la période actuelle, cela nous parle aussi d'une manière particulière. Nous sommes entourés de gens qui ont des besoins divers. Comment y répondons-nous? Quels sont nos poissons ou nos pains? Quelle est notre barque, par exemple, que nous pourrions mettre au service de notre Seigneur? Voilà, je passe rapidement sur ces versets. Ce n'est pas une étude systématique. Je vais changer de dia pour avoir les textes suivants. Au verset 18. Et il arriva, comme Jésus priait à l'écart, que ses disciples étaient avec lui. Et il les interrogea, disant, Qui disent les foules que je suis? Et répondant, ils dirent, Jean le baptiseur, et d'autres, Élie, et d'autres que l'un des anciens prophètes est ressuscité. Et il leur dit, Et vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondant dit, Le Christ de Dieu. Jusque-là. Voilà une question fondamentale, une question importante. Cette question n'est pas donnée n'importe où. Si nous lisons Matthieu 16, verset 13, nous savons que nous sommes dans les quartiers de Césarée de Philippe. Ce Philippe II, Hérode, Philippe II, le tétrarque. Nous sommes donc à Césarée de Philippe, qui s'appelait Banias ou Panias, et il me semble que c'est important de nous arrêter sur ce qu'était cette ville. C'est pas une ville anodine, nous sommes tout au nord du pays. C'est la première ville qui a accueilli le temple d'un empereur romain, mais bien avant, il y avait un culte. C'était un centre païen important. Et le dieu Pan y avait, soi-disant, sa maison. Et là, vous voyez Panias ou Césarée de Philippe, avec devant la grotte, eh bien, un temple. Il y a aussi une esplanade sacrée où dansaient des chèvres. Il y avait un cimetière pour ces chèvres sacrées. Il y avait un temple pour Zeus, il y avait des niches pour les nymphes, il y avait tout un service de sacrifice qui se faisait et qui n'est pas sans rappeler ce qui peut-être se passait au temple un peu après. On apportait des chèvres que l'on jetait dans cette grande grotte qui était alors à l'époque remplie d'eau. Si la chèvre coulait, eh bien, c'est qu'elle était acceptée par le dieu Pan. Si elle flottait, eh bien, il fallait aller au marché acheter une autre chèvre. Et donc, on entretenait comme ça un vrai service. Cette porte-là s'appelle la porte du Hadès. Je la mets en fond d'écran. Ce que vous voyez à côté, c'est la représentation grecque du dieu Pan, un être mi-homme, mi-chèvre, avec des cornes sur la tête. Peut-être que cela vous rappelle dans l'imagerie populaire, bien des traits qui ont été utilisés pour illustrer Satan. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un endroit qui est chargé, dans un endroit qui est lourd, qui est empreint de paganisme. Et le Seigneur veut que cela soit évident pour les disciples que Satan est un maître dur. Alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se faisait comme service à Pan lorsque le Seigneur enseignait. Mais le temple de l'empereur était là et fonctionnel. J'aimerais vous parler d'un endroit qui m'a marqué lorsque nous étions au Burkina Faso. C'est la mare de Dafra. Près de Bobo-Dioulasso, eh bien, il y a une mare sacrée. Vous vous approchez dans des paysages magnifiques et vous descendez dans des collines jusqu'à une mare sacrée. Tiens, je vous mets une image. Voilà. Et dans cette mare vivent des silures, des poissons-chats gigantesques qui sont nourris des sacrifices qui lui sont offerts. Vous marchez dans les plumes. L'odeur du sang acre est là, bien présente. Il y a des nuages de mouches sur les pierres autour. Il y a du karité, donc du beurre de karité sacré qui est là pour, soi-disant, guérir les maladies. Il y a une lourdeur qui, paradoxalement, m'a fait beaucoup de bien. Je savais pourquoi nous étions dans ce pays. Je savais que ceux qui nous entouraient avaient besoin du message libérateur de l'Évangile. Ils avaient besoin d'entendre, ils avaient besoin de comprendre qu'il y avait un autre Seigneur et que leur maître, Satan, devait être abandonné au plus vite. Et les disciples sont confrontés à cette réalité. Mais il y a cette question importante qui leur est posée, qui est-ce que je suis pour vous? Est-ce qu'il y a une question plus importante dans la vie? Parce que à ce sujet, il faut bien arriver à une conviction, à une certitude à la fois. Si nous ne connaissons pas Christ et qui il est, que connaissons-nous? Quelles sont nos certitudes? Quelles sont nos espérances? La Bible n'aurait aucun sens, car elle ne parle que de lui. Jean 20, verset 31, ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Je reviens au texte. Bon, je vais lire les versets. Verset 23. Et Jésus disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Verset 27, et je vous dis en vérité que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Ces versets 23 à 24 doivent nous faire réfléchir. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Nous sommes Suisses, nous sommes au pays du couteau suisse. Et pratiquement chaque Suisse a un couteau sur lui. Et j'ai l'impression que nous utilisons ce couteau pour tailler nos croix, pour tailler nos croix à notre mesure, pour faire des croix sur mesure. Et nous ne sommes pas prêts à accepter ce que le Seigneur veut placer sur nos épaules. La consécration, c'est le secret de ce chapitre. C'est quelque chose qui reviendra plus loin. Oh, c'était il y a bien longtemps, eh bien, devant une église, il y avait cette invitation à donner, à partager. Et devant ce panneau, eh bien, une coque, une poule, une vache, un mouton et un cochon se sont interrogés, disant, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Et la poule disait, ben, écoutez-moi, je vais pondre un œuf et je donnerai mes œufs à Dieu. Et la vache disait, oui, c'est une bonne idée. Et moi, ce serait du lait, ce sera du lait. Et le mouton disait, eh bien, pour moi, pas de problème, je vais donner ma laine. Et chacun se tourne vers le cochon et lui dit, et toi, qu'est-ce que tu peux lui donner? Et si tu lui donnais un jambon? Et alors, le cochon a quand même eu quelques réticences parce qu'il disait, mais écoutez, pour vous, eh bien, c'est une contribution, mais pour moi, c'est une consécration. Et voilà, le Seigneur veut nous amener à réfléchir à ces versets. Vous savez, je dois faire pas mal de sport et beaucoup me promener. Sur le retour d'une promenade, Natacha me parlait des presque de Saul. Vous savez, Saul, ce roi d'Israël, eh bien, il a presque attendu 7 jours. Il a presque détruit tous les Amalékites. Il a presque fait les choses qui lui étaient demandées. Mais en les faisant presque, Il s'est totalement disqualifié, sachant réfléchir à ces questions. Nous allons maintenant entrer dans cette partie de contemplation et nous allons monter sur cette montagne de la transfiguration. Verset 28. Et il arriva environ 8 jours après ces paroles que Jésus prit avec lui Pierre et Jean et Jacques et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes qui étaient Moïse et Élie parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Il arriva, comme ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit. Et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut une voix venant du ciel disant, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul, et ils se turent, et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Césarée de Philippe est aux sources du Jourdain, enfin une des trois sources du Jourdain, sur les pentes même de l'Hermon. Alors c'est vrai que cette montagne n'est pas citée et que peut-être une partie de l'Église a repris d'autres lieux saints que ce mont Hermon comme montagne de la Transfiguration. Alors il me plaît de penser que c'est quand même le mont Hermon. C'est une grande montagne. Il faut, pour atteindre le sommet, monter à plus de 2800 mètres. C'est donc toute une approche. Le mot Hermon vient d'une racine hébraïque qui veut dire lieu sacré. Ça revêt la notion de consécration, de dédicace. C'est vrai que là, il y a toute une tradition qui faisait de cette montagne un peu la piste d'atterrissage des anges déchus. Il y a le livre d'Hénoc, un livre apocryphe dont on a retrouvé des fragments à Qumran, un livre aussi qui a été écarté du canon pour finir assez tard. Je crois que c'était au concile de Laodicée. Donc, c'est quelque chose qui était peut-être connu. Et l'on disait que sur cette montagne, eh bien, des anges déchus étaient arrivés et que c'est là qu'ils avaient fait le pacte de se marier avec des femmes de ce monde. Bon, si je cite cette histoire, c'est peut-être que le Seigneur, dans ce qui va être présenté aux disciples, veut montrer sa différence. En bas, dans la plaine, il y a les faux dieux, les nymphes, tout un culte. Sur cette montagne, il y a toute une histoire d'anges. Et le Seigneur ne veut pas montrer qu'il est plus puissant que cela. Dieu veut rendre évident qu'il est différent, qu'il est son fils. Oui. C'est ce que les disciples vont aussi apprendre et découvrir. Ce qui me touche, c'est ce désir de Dieu d'amener ses disciples à la contemplation, à l'adoration, son désir de révéler les gloires de son Fils. Combien l'adoration est parfois médiocre et facile pour moi, pour vous peut-être aussi. La première fois qu'il nous en est parlé, eh bien, c'est avec l'histoire d'Abraham, cet homme qui avait deux fois mon âge, et qui se levait le matin pour fendre du bois, pour battre l'âne, qui était prêt à marcher 3 jours pour aller au lieu révélé par Dieu sur ce mont Morija, et qui allait entendre la voix de Dieu et qui allait revenir en bénissant Dieu. Tout dans le cœur de Dieu nous appelle à la découverte de sa personne. Quel bonheur d'avoir un Dieu qui désire se révéler. Vous savez, le plus grand nombre de chapitres sur un même sujet concerne le tabernacle. Et le tabernacle, c'est une invitation à l'intimité. Évidemment, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, mais pour celui qui entre dans le lieu saint, pour celui qui entre dans le lieu très saint. eh bien, il y a beaucoup de choses merveilleuses à découvrir. Les mages aussi avaient fait un immense voyage pour se présenter devant un petit enfant et lui rendre hommage. Alors, quelle est notre vie d'adorateur? Quelle est notre vie de ceux qui contemplent les gloires de Dieu? Un regard simple sur Jésus-Christ, sur sa personne, et peut-être je veux insister, pas sur le christianisme, pas sur les doctrines, mais s'approcher de sa personne, s'envelopper de sa personne, de sa présence, et s'émerveiller. Parce que la louange née de l'émerveillement, l'adoration est le fruit de l'émerveillement. Alors, sur cette montagne, eh bien, il y a Moïse et Élie. Alors, on peut faire des réunions entières sur cela. La loi, peut-être les prophètes qui avaient eu des longs ministères, chacun aussi avait été établi pour délivrer. Moïse avait sorti le peuple de l'esclavage d'un maître dur de Pharaon. Élie avait permis un retour au culte du vrai Dieu en s'opposant aux prophètes de Baal. Voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous pencher là-dessus, mais quelle est notre adoration? Quelle est notre vie d'adorateur? Est-on médiocre ou bien est-on de ceux qui désirent progresser, qui sont prêts à suivre le Seigneur sur peut-être des pentes qui nécessitent un certain effort pour le découvrir. Alors, voilà, Pierre va parler un peu rapidement, mais on le comprend aussi d'une certaine manière. Peut-être que c'était la fête des cabanes, Sukkot, peut-être qu'il y avait, voilà, ce désir de suivre la loi sur les pentes de l'Hermon. Hier, nous marchions, on est monté à 2000 mètres, j'étais très fier de moi. Eh bien, Natacha et Anouk, les deux, m'ont dit à quelques minutes d'intervalle, eh bien, ce serait vraiment bien qu'on revienne pour camper là. Donc, des paysages magnifiques poussent peut-être à ces pensées-là. On peut le comprendre aussi d'une certaine manière. Mais Pierre n'a pas grand-chose à dire. Pierre et les autres disciples n'entrent pas vraiment dans les propos de Dieu. Ils parlent avec Moïse et Élie de la mort du Seigneur. C'est peut-être quelque chose de trop grand, de trop compliqué, de trop précoce à comprendre pour eux. Et c'est quelque chose qui nous désole. Et en pensant à ma vie d'adorateur, je me dis, mais combien de fois Dieu a voulu me faire comprendre quelque chose des gloires de son Fils, de son Seigneur. Et puis, comme les disciples, j'étais fatigué, lassé, inintéressé, paresseux, occupé à d'autres choses. Le Seigneur veut se révéler. Le Seigneur, vous connaissez ces versets d'Amos 3, verset 7, Or le Seigneur l'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Peut-être que le Seigneur a tellement plus à nous apprendre. Au verset 37, et il arriva le jour suivant, quand ils furent descendus de la montagne, qu'une grande foule vint à sa rencontre. Et voici un homme de la foule s'écria, disant, Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique. Et voici un esprit le saisit. Et soudain, il crie et il le déchire en le faisant écumer. Et c'est à peine s'il se retire de lui après l'avoir broyé. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser. Et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant dit, Ô génération incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Et comme il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment. Mais Jésus tança l'esprit immonde et guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu. Voilà, après la montagne, après la gloire, après ce qui aurait dû être de l'émerveillement, il y a le retour aux choses de la terre. Du milieu de la foule, eh bien, il y a ce cri, le cri d'un homme qui est en détresse. Grandeur de la montagne de la transfiguration, grandeur des besoins de la foule. Dieu, une fois encore, veut nous y sensibiliser. Il veut nous orienter vers la détresse humaine, parce que nous avons une part à jouer face à cette grande foule et au cri qui en sort. Et la situation actuelle doit nous faire réfléchir à notre manière de répondre à ce cri. C'est une grâce d'être un croyant, d'être un chrétien, mais il y a aussi des responsabilités qui sont associées à cela. Dans l'évangile de Marc, il y a au chapitre 9, verset 16, cette question du Seigneur qui n'est pas relevée dans l'évangile de Luc. C'est le passage parallèle et il est dit: qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De quoi discutez-vous? Disputez-vous? Et je trouve intéressant, le Seigneur s'approche de moi, s'approche peut-être de notre Église, de notre assemblée, et nous pose la question: mais de quoi discutez-vous? On discute beaucoup, que de discussions. Parfois, on discute au lieu d'agir. Alors prions pour que l'Église retrouve le ministère qui lui est confié. Imaginez la détresse de cet homme. Il croyait que le Seigneur, eh bien, allait être une solution à la délivrance de son enfant. Et c'est peut-être une situation que nous avons vécue souvent, où des gens sont venus nous dire: on nous a trompés. On m'avait dit que ce serait différent. On m'avait dit: crois au Seigneur et tu seras guéri. Crois au Seigneur et tu trouveras du travail. Crois au Seigneur et tu seras riche et aimé. Vous connaissez l'évangile de prospérité qui est prêché parfois. Et après, c'est le désespoir. J'ai cru qu'ils pouvaient chasser ce démon et ils n'ont pas pu. Et vous sentez, oh, je n'ose pas dire l'énervement, mais la colère du Seigneur, aux générations incrédules et perverses. Jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Et peut-être je comprends mal ces versets, mais je vois que le Seigneur a une solution pour le fils de cet homme. Il sait qu'il chassera le démon, mais par rapport à l'incrédulité, par rapport au manque de piété de ses disciples, eh bien, il ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que nous sommes sensibles à ce que Satan fait de ceux sur lesquels il a tissé ses liens? Si vous prenez les évangiles en parallèle, vous allez voir dix détails qui concernent ce pauvre enfant. Il crie de colère, de rage. Est-ce que nous sommes entourés? Est-ce qu'il y a des gens autour de nous que nous connaissons de par ce caractère? Il l'agite, une agitation blessante, mortelle parfois. Il bave. Satan ne recule devant aucune dépravation, aucune humiliation. Les disciples doivent être conscients, eh bien, que Satan est un maître difficile. Dans Matthieu, au chapitre 17 et au verset 21, il nous est donné l'explication de cette non-réussite à chasser ce démon. Il nous est dit: mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors voilà, nous venons de parler de consécration. Nous venons de parler de contemplation. Et là, le Seigneur, après nous avoir posé la question sur quelle est notre vie d'adorateur, il peut nous poser la question: quelle est notre vie de prière? Les disciples avaient appris que le Seigneur était un Seigneur qui priait. Luc 11, verset 1, comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva, après qu'il eut cessé, que quelqu'un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples. Il n'est pas question d'enseigner à prêcher, d'enseigner à faire des miracles. Enseigne-nous à prier. À son contact, eh bien, ils se sont rendus compte que la puissance de son ministère, que son autorité venait de sa vie de prière. L'agir du Seigneur procède de la prière. Il est porté par elle. et combien nous pouvons être médiocres parfois dans notre vie de prière. Cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous en dirons quelques mots tout à l'heure. Dieu veut nous mettre dans des situations où nous allons pouvoir manifester notre foi. Dieu veut nous exercer. Il veut que le Verbe, la parole, l'Évangile devienne vérité dans nos vies. Et voilà, ce qui fâche le Seigneur, eh bien, c'est ce manque de foi. Et ce qu'il dit, c'est que la prière et le jeûne, c'est quelque chose qui augmente notre foi. Alors oui, quelle est notre vie de prière? Son temps? Est-ce que nous connaissons des impatiences de nous retrouver devant Dieu? Une phrase m'avait terriblement frappé, alors, il y a quelques années. Nous sommes ce que nous sommes à genoux. Et alors, dans ce miroir de la parole, où en sommes-nous? Médiocre? Le jeûne aide à exprimer, à approfondir, à confirmer notre résolution que nous sommes prêts à sacrifier n'importe quoi pour notre Seigneur. Le jeûne peut être soit ignoré, soit pratiqué d'une façon non conforme à la pensée de Dieu, ou alors vécu selon l'Évangile. Dans ce domaine, comme dans les autres, il nous faut, je crois, revenir à la parole de Dieu, qui seule est vérité. Il faut nous détacher des pratiques ou des traditions humaines. Sous un vernis spirituel, ça cache bien souvent des pensées d'orgueil, de recherche de toute puissance. De pratiquer le jeûne, comme on peut le voir hein, dans d'autres endroits. Ésaïe 58, verset 4, par exemple, eh bien, il vous est parlé, moi, je vais vous lire le verset. Voici, vous jeûnez pour contester, quereller, pour frapper d'un poing méchant. Vous ne jeûnez pas maintenant pour faire entendre votre voix en haut. Ésaïe 58, verset 4. C'est comme taper du poing sur la table. C'est pour finir, être dans une logique de pratique magique. Je fais quelque chose de cette manière-là pour plier les puissances spirituelles. Ce n'est certainement pas ça le jeûne. Matthieu 6, verset 16. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas comme les hypocrites un air morne, car ils donnent à leur visage un air défait en sorte qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Matthieu 6, verset 16. Ce n'est pas ça le jeûne. Ce n'est pas un positionnement spirituel par rapport aux autres. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être exposé. Zacharie 7, verset 5. Parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs disant, quand vous avez jeûné, que vous vous êtes lamenté au cinquième et au septième mois, et cela pendant 70 ans, est-ce réellement pour moi que vous avez jeûné? Voilà des interrogations par rapport aux jeûnes, des questions que nous devons nous poser. Alors, ce que le jeûne est, peut-être simplement rapidement, une privation volontaire de nourriture, je l'ai dit, parfois de boisson durant une période variable, mais dans un but spirituel, pour exprimer, pour confirmer notre résolution que nous sommes prêts à sacrifier n'importe quoi. C'est aussi parfois le jeûne d'autre chose, un renoncement, on va dire volontaire, à certains plaisirs légitimes afin de libérer du temps, de l'énergie pour la prière et la méditation. Alors peut-être je vous laisse avec trois questions. Eh bien, Jésus a-t-il jeûné? Matthieu 4, versets 1 à 2. Jésus a-t-il parlé du jeûne? Les premiers chrétiens ont-ils jeûné? Eh bien, je pense que on peut reprendre trois fois oui à cette question. Dans Acte 13, pour rechercher la volonté de Dieu dans la prière, il nous est dit, et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Dans Joël 2, au verset 12, ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne et avec pleurs et avec deuil, Eh bien voilà, on a vu, pour rechercher la volonté de Dieu, pour manifester sa repentance, pour s'humilier devant Dieu, eh bien, il y a ce chemin que le Seigneur a choisi pour nous. Dans Juges 20, vous pouvez lire au verset 26 pour implorer Dieu dans la détresse, dans ce chapitre-là. On voit dans certains combats spirituels pour se consacrer à la prière. Eh bien, nous avons d'autres versets. Voilà, jeûner, c'est revoir ses priorités. Je ne veux pas aller plus avant dans cette analyse-là. Simplement, le Seigneur nous pose une question. Voilà, qu'en est-il de ta vie de prière? Qu'en est-il de cette manifestation de ta consécration à moi? Eh bien, nous allons aller rapidement vers la fin de ce chapitre. Il y a beaucoup de choses qui ont été vécues avec le Seigneur. Il y a eu beaucoup de victoires. Il y a eu certaines choses médiocres. Mais le Seigneur est là pour accompagner, pour corriger, pour faire avancer. Malheureusement, si nous lisons au verset 45, le Seigneur aimerait partager d'autres pensées, d'autres réalités, ouvrir son cœur, ouvrir à ses disciples le plan de Dieu. Et au verset 45, il nous est dit, ils ne comprirent pas. Voilà, de nouveau de la médiocrité. Le verset 46 est peut-être pire encore. Et il s'éleva au milieu d'eux une question, à savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Voilà des questions d'orgueil qui surgissent après ces différents événements. Il y a eu la joie d'être en mouvement et de proclamer l'Évangile. Il y a eu la joie d'être associé à la multiplication des pains. Il y a eu la joie pour certains de voir un Seigneur glorieux, d'entendre la voix de Dieu. Il y a eu la joie de voir l'autorité du Seigneur par rapport aux forces démoniaques. Et voilà, sur le chemin, là, une pensée qui occupe le cœur. Qui est le plus grand? Est-ce que c'est quelque chose que nous connaissons? Est-ce que c'est une question que nous nous posons? Est-ce que c'est une situation que nous vivons dans nos églises à ce sujet-là? Est-on médiocre? Est-on concerné par l'orgueil? Malheureusement, je pense que il y a, enfin, chaque âge est différent. Les tentations de Satan sont peut-être différentes à chacun de nos âges. Mais les questions d'orgueil, de suprématie, de prééminence, c'est quelque chose qui peut toucher nos cœurs. Que le Seigneur nous aide, nous conduise dans un chemin d'humilité. Verset 49. Et Jean, répondant, dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous le lui avons défendu parce qu'il ne te suit pas avec nous. Et Jésus doit les corriger, doit les reprendre. Voilà de nouveau là un peu de précipitation, méconnaissance des pensées du Seigneur, une appropriation d'une autorité qu'ils n'ont pas. Et puis, on va terminer par ce verset 54. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme aussi Fieli. Voilà, j'avais parlé de bassesse dans le titre de ce sujet. Eh bien, nous devons peut-être nous repentir de certaines pensées qui peuvent nous habiter, de certains désirs qui peuvent traverser nos cœurs. Voilà, frères et sœurs, j'aimerais simplement rapidement apporter une petite conclusion à ce petit voyage que nous avons fait à travers ce chapitre 9 de Luc. Prenons au sérieux ce que Dieu nous confie et croyons que Dieu nous envoie. C'est le début de ce chapitre, la prise de conscience du désir de notre Dieu, de notre Seigneur, de faire connaître son nom, de faire connaître l'Évangile. Alors, prenons au sérieux ce désir. Prenons acte de la triste réalité qui nous entoure Et ce chapitre nous parle de différents besoins, de différents liens, de différentes situations critiques dans lesquelles le péché ou Satan tient les siens enlacés. Nous avons parlé d'adoration, de contemplation. De Corinthiens 3, verset 18. Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. À son contact, dans la contemplation et dans la prière, eh bien, il y a transformation. C'est une promesse de l'Écriture. Voyons les gloires du Seigneur nous voyons sa perfection dans sa manière d'agir dans ce chapitre et nous devons apprendre à les refléter, à les imiter et donner au Saint-Esprit l'occasion de nous utiliser, de nous transformer. Humilité, service des autres, discernement des besoins de l'âme, du corps, amour du prochain et des ennemis, confiance en Dieu, dépendance par la prière, obéissance. Voilà ce qu'il nous faut imiter. Voilà ce qu'il nous faut faire grandir dans nos vies. Recherchons la sainteté et ainsi fuyons la médiocrité. Voilà que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.